Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 novembre 2021, fin d'un nouveau mois et début d'un rebond aux États-Unis. Je dis bien aux États-Unis parce qu'en Europe, c'était plutôt asthmatique. Il s'est rien passé. Le marché européen a tenté quelque chose hier matin, mais c'était vraiment difficile. Pourtant, quand on regarde la clôture de New York, c'est plutôt solide. Il faudra aussi retenir qu'il y a eu énormément d'acheteurs aux États-Unis vendredi dernier. On a les chiffres de ceux qui ont été publiés hier. Le retail, les petits investisseurs ont vraiment compris, ou en tout cas assimilé le concept du buy the dip, acheter sur faiblesse. Et c'est eux qui sont revenus encore hier racheter le marché pour le faire repartir à la hausse. Et on voit des choses qui sont assez exceptionnelles en termes de comportement aux États-Unis. On va y revenir tout de suite. Mais en Europe, par contre, c'était vraiment très, très mou et très, très faible. On est toujours évidemment obsédé par cette histoire de Omicron et on y revient tout de suite. Donc ce qu'il faut retenir hier, c'est surtout les États-Unis, un rebond massif aux États-Unis, enfin massif, spectaculaire si on compare ce qui s'est fait en Europe. Grosso modo, on a pratiquement effacé la baisse de vendredi aux États-Unis, alors qu'en Europe, on en est à des années-lumière. Donc vraiment, on est dans un environnement complètement différent et tout est lié aux variants pour le moment. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est la tech qui a repris vraiment le lead. On le voit d'ailleurs avec le Nasdaq qui est plus tellement loin des plus hauts de tous les temps. Le SOX, le Semiconductor Index, est pratiquement au plus haut de tous les temps. Et puis, quand vous regardez le comportement des deux stars des semi-conducteurs, les Nvidia et les AMD, c'est juste incroyable. AMD est au plus haut de tous les temps. Après un sell-off massif du Black Friday de la semaine dernière, c'est juste incroyable. Donc, on voit que les gens reviennent directement, toujours dans les thématiques de hyper-croissance, si on veut bien. On revient sur ces thématiques de métaverse, sur ces thématiques de semi-conducteurs, de shortage de semi-conducteurs. Et du coup, on reprend les mêmes winners qu'avant. AMD, c'est l'exemple parfait. Vendredi, on s'est fait avoiner et puis finalement, lundi, elle repart et elle est au plus haut de tous les temps, ce qui fait que le SOX n'est plus très loin et que si vous me dites que le Nasdaq fait un nouveau plus haut demain, eh bien, j'y crois largement. Faisons maintenant un petit point sur ce magnifique variant, et non pas varant, donc ce variant Omicron, tout le monde en parle, tout le monde a un avis, mais personne ne sait finalement grand-chose. Hein. C'est un petit peu autour de ça que le marché se concentre aujourd'hui. Prenons déjà l'exemple de l'Europe. L'Europe est en pleine panique. Le variant Omicron arrive, que va-t-il se passer? On va tous mourir. Et fondamentalement, si vous regardez un petit peu, on n'en sait pas plus qu'avant. Alors moi, je suis pas médecin, hein, je suis pas épidémiologiste non plus, je fais que de lire ce que je vois dans les journaux, en supposant que ce qui est dans les journaux est à peu près vrai, mais en tous les cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce variant est soit beaucoup plus contagieux que les autres, mais par contre, il semblerait, et je mets le conditionnel dans tout ça, mais il semblerait que finalement, eh bien, les résultats, les conséquences de cette contamination soient bien moins graves que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que si vous chopez un variant Omicron qui vous fait choper le Covid, mais que les symptômes sont extrêmement légers derrière, ce qui veut dire que vous serez immunisé ensuite. Donc, quelque part, si grosse contamination, mais peu de conséquences, ça veut dire qu'il y aura une immunité globale qui pourrait finalement être une bonne nouvelle. Alors, je vais pas aller jusque là, mais en tous les cas, pour l'instant, on est en train de peindre le diable sur la muraille en Europe, alors qu'on ne sait strictement rien. On n'a aucun détail sur ce variant, mais certains rapports font état effectivement de symptômes extrêmement faibles, et on est en train de s'emballer sur pas grand chose. À ce propos, on a d'ailleurs Bill Ackman, qui est un des célèbres hedge fund managers aux États-Unis, qui doit gagner 2 milliards par année. Eh bien, monsieur Bill Ackman a fait un commentaire hier en disant que justement, ce que je viens de vous dire, si le variant donnait des symptômes faibles, eh bien, ça pourrait être carrément bullish pour le marché. Donc, on a commencé à racheter hier et c'est assez fou, encore une fois, cette espèce de confiance que les Américains mettent là-dedans. Bon, il faut dire que monsieur Joe Biden est venu dire qu'il fallait pas paniquer, qu'il n'y avait pas de raison de paniquer, qu'ils avaient les meilleurs médecins, les meilleurs scientifiques et qu'ils allaient répliquer contre ce variant Omicron, même si aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il faut en avoir peur, est-ce qu'il faut pas en avoir peur. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que tout le monde est en train de se barricader chez soi comme si c'était la fin du monde, on ferme les frontières, on interdit les vols depuis l'Afrique du Sud, on isole l'Afrique australe, enfin bref, c'est un sketch total, on a l'impression qu'on est rentré en mode panique, mais si par hasard Et ça a l'air de prendre un tout petit peu cette direction. Les choses ne sont pas si graves que ça. Et bien tout d'un coup, on va se retrouver, entre guillemets, les pantalons en bas, en devoir se dire, oulala, là là, mais il faut quand même que j'achète parce que ça repart de nouveau. La nouvelle du jour d'hier, en dehors de l'aspect Omicron et l'aspect pandémie, c'était Jack Dorsey. Jack Dorsey, le CEO de Twitter qui s'en va. Donc il a quitté la boîte hier. Il a annoncé qu'il renonçait à son poste de CEO. Il garde évidemment un siège au board. Donc il reste intégré à la société. Mais par contre, il s'en va en termes de CEO. C'était une bonne nouvelle, le marché a bien aimé la chose et d'ailleurs a salué le fait avec 10% de hausse parce que Jack Dorsey s'en allait en se disant oui, c'est bien parce que s'il s'en va, on va avoir un CEO à plein temps parce qu'il faut savoir que Jack Dorsey est également CEO de Square. Donc du coup, quand vous êtes deux double CEO, les investisseurs se disent ouais, c'est un petit peu dommage parce qu'il fait pas complètement son boulot. Alors là, on va avoir un mec qui va être 100% dédié à Twitter. Donc c'était une bonne nouvelle. Le titre a ouvert plus 10% et il termine moins 3%. C'est vous dire comment le marché il fonctionne aujourd'hui. Je vais pas dire complètement débile, mais bien taré. En tout cas, c'est assez proche de la vérité. Autre sujet du jour, le discours de monsieur Jérôme Powell. Alors, Jérôme Powell a parlé hier. Alors, j'aimerais revenir brièvement là-dessus. C'est assez marrant, hein, parce que l'articulation de son discours, c'est le variant Omicron. Donc, le mec, il est prévu de témoigner depuis au moins 3 semaines. Donc il vient ce lundi témoigner et il parle que de ce qui s'est passé vendredi. Donc les 3 semaines d'avant, il a préparé son discours à l'arrache dimanche soir à la maison parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire avant. C'était pas le sujet. Et il est venu quand même parler quasiment que du variant Omicron en disant que, ouh, c'est un danger pour la croissance économique. Encore une fois, il en sait foutrement rien. Le mec, il est patron de la Fed et il en sait foutrement rien, mais il vient nous faire un discours qui est complètement orienté autour de ce variant Omicron en disant si vraiment ça tourne mal, c'est mauvais. Alors oui, évidemment, si le variant Omicron est 10 fois plus contagieux que les autres, et qu'en plus il est 10 fois plus mortel que les autres, alors là oui, on a un vrai problème. Mais en l'occurrence, pour l'instant, il n'en sait rien, mais il a concentré son discours pour dire attention, si vraiment Omicron est dangereux, c'est une catastrophe. Le mec, il a même pas parlé de l'inflation ou à peine, il a même pas parlé de la hausse des taux, il a switché, il a réussi à mettre le sujet de côté, et du coup, il a en fait botté en touche en se disant tranquille, moi j'ai aucun souci à me faire de ce côté-là. Toute la problématique aujourd'hui, c'est Omicron et c'est pas le reste. Et puis, alors, on n'a pas parlé d'inflation transitoire, on n'a pas parlé d'inflation sous contrôle. Ce qui l'arrange plutôt pas mal en ce moment. Notre ami le pétrole qui s'est fait déglinguer la semaine dernière parce que Omicron, si Omicron est là, eh bien Omicron, plus personne va jamais consommer d'essence, plus jamais personne prendra l'avion, plus jamais personne ne voyagera, il y aura plus jamais un bateau qui va flotter entre Tokyo et puis Washington, il y aura jamais un bateau qui fera la Chine en direction de la Californie. Terminé, plus d'essence. Plus de pétrole, c'est terminé, on roule tout à l'électrique. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais le pétrole s'est fait déglinguer la semaine passée à cause de Omicron. Il a bien rebondi hier, parce qu'évidemment, on se dit, ouais, quand même, si c'est pas aussi grave que ça, eh bien, ça pourrait rebondir. Donc, il a commencé à rebondir, on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais en tout cas, c'est plutôt dans la bonne direction. Et puis hier, les gens de JP Morgan sont revenus sur le sujet en disant, le pétrole peut facilement aller à 150$, d'ici 2023. Alors, ils pensent que le contrôle des prix exercé par l'OPEP va pousser finalement les prix à la hausse, et ils pensent que le variant Omicron, que dalle, ça sert à rien, il n'y a pas de raison de poser de questions. Mais là encore, ils ramènent le variant Omicron au milieu de la table, et ils savent même pas quelles sont les conséquences à moyen et long terme de ce truc-là. Là encore, si c'est grave, qu'est-ce qu'on va devenir? Comment les mecs, ils peuvent prendre des paris sur quelque chose dont ils ne savent strictement rien. Bref, en tout cas, JP Morgan, méga bullish sur le baril, 150 price target pour 2023. Il y a donc largement de quoi faire. Vous pouvez acheter du Total, acheter du Total, acheter du Exxon, acheter de l'Occidental Petroleum, tout ce que vous voulez, de toute façon, on s'en fout, le baril, il va à 150. L'idée du jour, de nouveau, si on tient compte du fait qu'on est en train de marcher sur la tête pour l'instant avec ce variant, si on pense qu'on a clairement exagéré le mouvement, eh bien, moi, je regardais un graphique, un titre SAP en Allemagne. Si vous regardez la configuration graphique, on est revenu sur le bas de la tendance. Le titre a perdu quasiment 15€ récemment, plus de 10% de baisse, alors qu'il a sorti des chiffres, ils ont sorti des chiffres canonissimes, fantastiques. Quand on regarde la baisse de SAP depuis une année et demie, 2 ans, Ils ont pris la première tôle entre les 150 jusqu'au fond du trou en disant « Oui, mais nous, on a des problèmes parce que le variant, parce que la pandémie, parce que patati patata », c'est ce qu'avait fait le profit warning d'il y a 12-14 mois en arrière. Et aujourd'hui, SAP ont annoncé qu'ils avaient récupéré le retard, que ce qu'ils avaient prévu comme retour de la croissance était quasiment atteint, donc tout va bien et le titre se prend 15% dans les dents après la publication d'excellents chiffres. Je trouve ça un petit peu fort de café. Donc je me repositionnerai sur SAP en ce moment avec un target à 129, avec évidemment un stop loss en dessous des 109 au cas où ça tournerait vinaigre. Mais globalement, je jouerai le rebond dans ce range et on voit que d'habitude, ça marche plutôt pas mal. La question du jour, c'est quelqu'un qui me dit qu'il a un portefeuille diversifié en crypto-monnaie avec du Bitcoin, avec de l'Ether et avec différentes autres crypto-monnaies. Et puis, il aimerait trouver un ETF qui permettrait d'hedger les crypto-monnaies. Alors non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'ETF qui vous permet d'hedger un portefeuille en crypto-monnaie. Ce qu'il faudrait faire, d'abord faire du hedging et la protection de capital, c'est autre chose, mais protéger des crypto-monnaies, ça devient très compliqué. Pour moi, la seule protection pour se protéger d'une baisse dans les cryptos, c'est de les vendre. Il n'y a pas de solution autre. Je pense qu'aujourd'hui, jouer la protection, ça me paraît un tout petit peu ridicule. Vous me parlez que vous avez une grosse position en Bitcoin, la seule chose que vous pourriez utiliser, c'est de vendre un ETF qui est long Bitcoin. Vendez vos bitcoins, il n'y a pas de raison. En plus, ça se trouve, à la baisse, le bitcoin ira plus vite que l'ETF. Donc, je pense qu'il ne faut pas essayer de hedger ce genre de choses. Ça fait partie d'une allocation de votre portefeuille qui est l'allocation ultra risquée. Je sais pas, vous avez un portefeuille de 100 000 francs, vous avez 10% de ce portefeuille en crypto-monnaie. Pour moi, vous devez déjà avoir fait un write-off, vous débarrasser définitivement du fait. Vous imaginez que vous avez déjà perdu vos crypto-monnaies et vous basez là-dessus. Si ça explose et puis que le bitcoin fait x10, eh bien, cette partie du portefeuille va exploser, vous pouvez la réduire au fur et à mesure, faut pas qu'elle devienne trop grosse à l'intérieur du portefeuille, mais le hedger sur ce type de produit, c'est quasiment pas possible. Si vous avez un portefeuille classique, sans crypto-monnaie, hyper diversifié, avec des actions suisses, des actions américaines, des actions françaises ou allemandes, eh bien, là-dedans déjà, rien que ça, pour hedger, pour protéger le portefeuille, ce sera super difficile. Donc, trouver un ETF qui va hedger un portefeuille hybride de crypto-monnaie, pour l'instant, c'est totalement utopique. Donc la seule chose, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos cryptos, c'est de réduire l'exposition ou de sortir complètement, ou simplement d'accepter le fait que c'est la partie ultra risquée de votre portefeuille. Deuxième question du jour, elle est très rapide, je suis obligé d'en parler un petit peu, parce que quelqu'un me dit « j'ai acheté des Novartis en pensant qu'elle allait repartir, et puis finalement elle fait que de tomber, ce qu'il faut tout vendre et tout arrêter ». Novartis, c'est un cas assez exceptionnel. Pour l'instant, le désavantage de Novartis, c'est qu'ils sont absolument pas impliqués dans tout ce qui est Covid. Et aujourd'hui, si vous êtes une pharma et vous faites pas du Covid, ça n'intéresse personne. Ce qui est une aberration, parce que, sauf erreur, il y a également d'autres maladies qui continuent de fonctionner dans le reste du monde où je me trompe. Je suis pas médecin encore une fois, mais on peut se poser des questions par rapport à ça. Eh bien, donc, Novartis, elle est out of fashion. Et Novartis, historiquement parlant, elle est souvent out of fashion. Et si vous regardez un peu le graphique sur le moyen long terme, et vous voyez qu'on est dans un immense range, que là, on est dans le bas du range, on est à 5 francs des plus bas sur Novartis qui correspondent à la crise de mars 2020. Ça me paraît un tout petit peu exagéré, mais simplement l'intérêt pour l'instant, il est quasi nul. Vous regardez la correction du marché ces derniers jours, vous avez des boîtes comme Sanofi qui se sont fait démonter. Pourquoi vous tapez sur une Sanofi alors qu'elle est active dans les vaccins anti-Covid et qu'elle est active dans cette lutte-là? Donc, quelque part, il y a une espèce de mauvaise réaction du marché. Mais ce qu'il faut regarder sur Novartis, c'est que c'est un titre qui, dans un portefeuille en Suisse, fait complètement du sens parce que c'est une des plus grosses boîtes suisses. Alors oui, c'est pas la plus sexy du moment, mais elle paye un dividende de 4%. Donc moi, j'aurais tendance à vouloir dire, moi je m'accrocherai, moi j'en ai, donc je resterai sur mes Novartis en disant, moi j'attends parce que ça paye un dividende, c'est une boîte qui est là, qui a pignon sur rue, et puis c'est une question de timing. Il y a des phases de marché, et moi je suis là depuis un petit moment, il y a des phases de marché où plus personne ne veut de Novartis, mais on n'est pas en train de parler de faillite ou de boîte qui ne fonctionne pas, on est en train de parler de, simplement on veut pas être dans Novartis pour le moment. Mais dès que le momentum il tourne, cette boîte-là elle peut remonter à 85, 88, 90 francs sans aucun problème. Quand vous regardez les price target moyens des analystes, on est au-dessus des 90 francs suisses. Donc je pense qu'à ces niveaux-là, non, tout vendre, moi je m'accrocherais un peu au mur en me disant qu'est-ce que je risque quoi. J'ai un dividende de 4%, même si vous devez la garder 10 ans sur le portefeuille, vous allez tous les ans encaisser 4%, dans 10 ans vous aurez encaissé 40% de ce que vous avez investi. ça me paraît encore correct sur le long terme. Alors c'est clair que si vous avez besoin de cet argent la semaine prochaine, c'est un autre problème, mais pour moi, Novartis, ça fait partie d'un fonds de portefeuille, donc la question ne se pose même pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter dans ce monde merveilleux dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde sous les signes de Omicron. On ne parle que de ça, c'est le centre du monde. Mais on sait toujours rien ou pas grand-chose sur ce truc, si ce n'est qu'il est hyper contagieux et qu'apparemment, eh bien, il n'est pas aussi dangereux que ça. Affaire à suivre en tout cas pour l'instant. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis ben, n'oubliez pas de revenir demain parce qu'il y en aura une nouvelle, et puis après-demain, il y en aura une autre encore, et puis après-demain encore. Passez une très bonne journée. À demain. Bye bye.